C'est ce que nous dira, on n'a pas le temps de lire le texte, mais je vais le faire à la maison, l'apôtre Jacques dans son épître au chapitre 2. Voyez-vous, une foi non suivie, non accompagnée d'œuvres d'obéissance, d'œuvres d'amour et aussi d'œuvres de service de la cause de Christ, serait une foi morte, vaine, stérile, inefficace. C'est pourquoi, j'y reviens, l'épître aux Éphésiens nous parle d'œuvres, de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Le texte littéral dit « afin que nous y marchions ». Ma responsabilité, et la vôtre aussi, frères et sœurs, consiste donc à découvrir, à discerner, à comprendre ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous afin que nous puissions nous mettre au travail et les accomplir. Dans l'Église, il n'y a pas ceux qui servent et ceux qui sont servis, mais il y a seulement des gens qui servent le Seigneur et qui se servent mutuellement. Vous voyez, l'Écriture dit « Servez Christ le Seigneur ». Amen. Voilà, c'est ce qui donne un sens à notre vie. C'est ce qui donne un but à notre existence. Servez Christ le Seigneur. Et puis il est aussi écrit dans la parole de Dieu, rendez-vous par la charité, c'est-à-dire par l'amour, serviteurs les uns des autres. Si donc, aussi correctement que possible, nous nous sommes acquittés scrupuleusement, avec application, de ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, que nous les pratiquions, si nous nous en sommes acquittés, eh bien nous en recevrons la récompense. Amen. Et une récompense que nous ne toucherons pas, que nous ne recevrons pas sur la terre, mais que nous recevrons un jour dans le royaume des cieux, lorsque nous comparaîtrons devant le Seigneur. Ainsi, voyez-vous, la condition pour accomplir ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions, la condition primordiale, c'est la disponibilité. Est-ce que vous êtes, est-ce que je suis, est-ce que nous sommes disponibles pour faire ce que Dieu veut? Question à chacun d'entre nous de répondre. Dans le livre de la Genèse, il est question d'Abraham. Vous savez, Abraham lui a dit un jour, « Abraham !» Et Abraham a répondu, « Me voici. » Vous ne savez pas encore ce que Dieu allait lui demander. Mais simplement l'appel de Dieu qui venait de retentir, « Abraham !» Et lui se rend disponible. Et ce que Dieu lui demandait de faire, ce n'était pas simple, puisqu'il fallait qu'il prenne son fils Isaac pour aller l'offrir en sacrifice sur le mont Morija. Dieu a fait grâce, ça ne s'est pas fait, c'est un mouton qui a été offert à la place. Mais voilà, me voici. Ésaïe, lorsqu'il a reçu sa vocation au ministère prophétique, pareil. Dieu a dit, mais qui enverrai-je? Vous voyez, Dieu a un problème, il cherche, si je puis dire, il a un problème, entre guillemets. Il cherche des gens qui soient disponibles pour accomplir son œuvre, ses œuvres. Qui enverrai-je? Et Ésaïe a dit, me voici. Et l'exemple parfait, c'est celui du Seigneur Jésus-Christ, dont il nous est dit dans la parole qu'il s'est écrié, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et à la fin de sa vie, Jésus pourra dire, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, je t'ai glorifié sur la terre. Ah, que Dieu, n'est-ce pas, eh bien, puisse trouver en nous des gens d'un tel état d'esprit. Il est indispensable que chacun de nous puisse en dire autant à la fin de notre vie, que quand nous arriverons à la fin de notre parcours, ça arrivera, vous savez, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, peut-être pour les plus jeunes, eh bien, il faudra partir. Et que ça, à ce moment-là, nous puissions dire, Seigneur, ces œuvres que tu avais préparées d'avance pour moi afin que je les accomplisse, je me suis mis à l'ouvrage avec le maximum de zèle, d'application, de ferveur pour les accomplir. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. L'inverse le serait à notre honte si le Seigneur était contraint de nous dire, tu ne t'es pas acquitté des œuvres que je t'avais confié. Voilà. Tu t'es même pas soucié de savoir ce que je voulais que tu fasses pour moi, ce que je voulais que je fasse avec toi. Il faut savoir que la qualité de nos œuvres sera jaugée, vérifiée, testée, appréciée. Voyez ? Dans la parole de Dieu, on voit que concernant la justice de Dieu, il y a deux sortes de jugements. Il y a d'abord le jugement qui concerne le salut. Hein. Un jour, devant le trône de Dieu, tout dit l'Apocalypse au chapitre 20, tous ceux qui n'auront pas fait la paix avec le Seigneur par la foi en Jésus-Christ seront jugés. Jugés selon leurs mauvaises œuvres et condamnés à subir les rigueurs du châtiment divin dans l'enfer éternel. Voilà, ça c'est le jugement quant au salut. Le chrétien authentique, celui qui est né de nouveau, celui qui s'est sérieusement repenti, qui a persévéré jusqu'au bout, marchant dans la sanctification, celui-là, c'est pas, il échappe à ce jugement. Pour lui, il n'y a plus de problème, la question du salut est réglée. Dans l'évangile de Jean, chapitre 5 et au verset 24, Jésus dira ceci, « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Gloire à Dieu. Quant au jugement qui déterminera le fait d'être sauvé ou perdu, il n'y a pas de souci, les chrétiens, ils ont reçu le salut, n'est-ce pas ? Et ils n'ont pas à redouter ce jugement-là. Voilà. Maintenant, il y a un autre jugement. Un jugement qui concerne nos œuvres en tant que chrétiens dont nous parlons ce matin. Et c'est plus particulièrement de cela que nous nous entretenons en ce jour, n'est-ce pas ? Je vous répète ou je vous rappelle le texte que nous avons lu tout à l'heure où il est dit « Car l'œuvre de chacun sera manifestée ». Verset 13, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 13. « Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. » Ça, comprenez-vous, c'est le jugement qui concerne non pas le salut, mais les œuvres que nous sommes chargés d'accomplir après avoir été sauvés. Dans notre passage, dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 9 et 10, il nous est dit que nous, membres du peuple de Dieu, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ pour recevoir selon le bien ou le mal que nous aurons pratiqué étant dans notre corps. Donc, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ pour que nos œuvres soient jugées. La qualité essentielle que Dieu désirera trouver en nous quant au service en tant que chrétien, c'est la fidélité. La fidélité. Dans l'évangile de Matthieu, vous lirez ça à la maison, au chapitre 25, il y a cette parabole des talents. Vous savez, un homme fortuné, voilà, convoque ses serviteurs, il confie 5 talents à l'un. Les talents, c'était une masse, une somme de métal précieux. Voilà, 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième. Et puis il s'en va, pendant longtemps, et il revient, et il fait rendre compte à chacun de ses serviteurs. Le premier qui a reçu 5 talents, il en a produit par son travail, par ses œuvres, par son investissement, 5 autres. Et le maître lui dit, c'est bien bon et fidèle, serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Pareil pour le deuxième, n'est-ce pas, qui peut dire, voilà, j'en ai reçu 2, ben j'en ai produit 2 autres par mon travail, mon investissement. C'est bien mon fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Quant au troisième qui n'a rien produit du tout, lui, il sera sévèrement, sévèrement sanctionné. Je vous fais remarquer que ce que le maître a apprécié, c'est la fidélité. C'est bien bon et fidèle serviteur. Ce n'est pas tant le résultat, ce n'est pas tant le succès que Dieu veut trouver, mais plutôt la fidélité. Cependant, On peut dire d'une certaine manière que quand il y a une fidélité authentique, il y a également tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, le résultat, parce que Dieu bénit la fidélité. Amen. Dieu bénit la fidélité et elle est productrice de fruits. Qu'est-ce que c'est qu'être fidèle ? La fidélité concerne les relations conjugales, certes, mais ça va beaucoup plus loin. Être fidèle, c'est être fiable. C'est être digne de confiance. C'est être à la hauteur des responsabilités qui nous sont confiées. Et Dieu désire trouver cela en nous. Est-ce que mon frère, est-ce que ma sœur, tu es fidèle dans le service que Dieu voudrait que tu accomplisses? Est-ce que je suis fidèle? Attention! Plus de talents nous seront confiés et plus d'exigences aussi de la part du Seigneur il y aura. C'est écrit quelque part, on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Et puis il est aussi dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, il l'est également dans les grandes. Et inversement, celui qui est infidèle dans les petites choses, il l'est aussi dans les grandes. Voyez, c'est pour ça qu'il faut rien négliger. Rien mépriser quant aux occasions qui se présentent de servir le Seigneur. Ne jamais dire, surtout pas, « Oh, ça c'est trop insignifiant, ça a trop peu de valeur, trop peu d'importance, alors je ne m'acquitte pas. » Non, 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 non. Tout ce que tu trouves à faire, d'ailleurs on citera ce texte tout à l'heure, fais-le. Nos œuvres, je le répète, seront testées, appréciées, jaugées, vérifiées. Si nous avons servi de la mauvaise manière, c'est quoi ça? Avec des matériaux fragiles, inconsistants. Il est question là, dans ce texte d'un Corinthien, de bois, de foin, de chaume, des matériaux donc qui ne résistent pas au feu, n'est-ce pas? C'est-à-dire, en clair, si nous avons servi avec des motivations qui ne seraient pas correctes, nous perdrons notre récompense. Car, lors du jugement des œuvres, les choses apparaîtront en pleine lumière. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit, par exemple, dans la première aux Corinthiens, chapitre 4, au verset 1er, il est dit « Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs ou des administrateurs, c'est pareil, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Voyez, on y revient. Pour moi, dit Paul, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne suis coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins ou les motivations des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Voilà. Hein? L'approbation ou les critiques dont nous pourrions être l'objet de la part des hommes, ça n'est pas ça le plus important. Quoique, il faut avoir aussi l'humilité de savoir se laisser reprendre quand c'est nécessaire. Mais ce qui comptera vraiment au jour de Christ, c'est l'appréciation de Dieu. Hein? Il est bien dit, voilà, le Seigneur mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il manifestera les desseins des cœurs. Parce qu'on sait bien que le Seigneur regarde toujours au cœur. Voyez, on peut manifester apparemment beaucoup de zèle, ouais, mais avec un mauvais état d'esprit. Que le Seigneur désapprouve. Et s'il en était ainsi, nous perdions notre récompense. Qu'est-ce que j'entends par mauvais état d'esprit? Par exemple, hélas, hélas, on peut prétendre le servir le Seigneur avec orgueil, avec suffisance. Moi, je fais mieux que les autres. Vous savez, par rapport aux perfections divines, notre service, même le meilleur, il sera toujours limité et maladroit. Vous ne trouvez pas? Ce n'est pas moi qui fais une faveur en Dieu, à Dieu en le servant. C'est Dieu qui me fait une faveur de bien vouloir accepter mon petit service. avec toutes les limitations, les faiblesses qui sont les miennes, mais que je veux faire de tout mon cœur. Si Dieu trouve donc de l'orgueil en nous, de la jalousie, des ambitions égoïstes, une vaine gloire, des rivalités, quand bien même par ailleurs, apparemment, nous manifesterions beaucoup de zèle, eh bien, nous perdrons notre récompense. Ce n'est pas moi qui le dis, n'est-ce pas ? C'est la parole de Dieu. Dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, au verset 3, tenez, c'est ce qui est écrit, si j'arrive à trouver le texte, tout au moins, Philippiens, chapitre 2, et le verset 3, il est dit ceci, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Voyez ? C'est avec une telle mentalité, c'est avec un tel état d'esprit, c'est avec de tels sentiments qu'il nous faut servir, qu'il nous faut nous engager dans l'œuvre de Dieu. Déjà, du temps de l'apôtre Paul, il y en avait qui servaient Dieu, oui, mais même qui prêchaient l'Évangile, mais avec des motivations mauvaises. Dites, il y a un texte qui m'étonne, moi, dans l'Épître aux Philippiens, toujours au chapitre 1er et au verset 15. Voilà ce que l'apôtre Paul dit quant à certains de ses collègues prédicateurs. C'est pas croyable, ça. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie. Voilà. Et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes, heureusement. Ceux qui agissent par amour, ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, ceux donc qui prêchent par envie et par esprit de dispute, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelque affliction dans mes liens. Vous vous rendez compte? C'est misérable. C'est scandaleux. Il prêchait l'Évangile, mais avec une arrière-pensée de dire « L'apôtre Paul est en prison pour sa foi. Si quelque part on peut lui nuire, eh bien ce sera tant mieux pour lui. » Mes amis, ces choses sont misérables. Ces gens-là perdront leur récompense, bien sûr, bien qu'ayant pourtant prêché l'Évangile, le message du salut en Jésus-Christ. Alors, puisque nous parlons de récompenses, en quoi consisteront ces récompenses célestes? Difficile de les définir avec précision, parce que nous sommes en train là de parler de réalité céleste. Et tant que nous sommes sur la terre, évidemment, nous ne pouvons que difficilement concevoir, imaginer tout ce qui se passera là-haut. Cependant, il y a quelques indices dans la parole que Dieu nous livre. Je signalais tout à l'heure la parabole des talents dans Matthieu 25. Et Jésus dit à ses serviteurs fidèles qui se seront mis à l'ouvrage, qui auront accompli fidèlement les œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour eux, il leur dira, c'est bien bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, je te confierai beaucoup. Voilà. À ceux qui auront été de fidèles serviteurs dans leur service ici-bas, le Seigneur confiera beaucoup. Dans l'Apocalypse, il est écrit que ses serviteurs le serviront et en même temps, ils régneront avec lui. On peut donc penser que ces récompenses célestes seront constituées par des responsabilités nouvelles que le Seigneur nous confiera dans le royaume des cieux. Des occasions de le servir glorieusement dans le ciel, en exerçant en son nom une mesure d'autorité plus ou moins importante de sa part, selon la qualité de notre service accompli ici-bas. Même s'il y a une certaine imprécision voulue de Dieu quant à la réalité tangible de ses récompenses, on peut compter sur le Seigneur, vous ne croyez pas ? On peut compter sur lui pour faire les choses à merveille. Amen. Dans ce domaine comme dans tous les autres. Alors, en conclusion, si nous voulons être amplement récompensés, Vous voyez, parce qu'il est dit de certains, ils seront sauvés comme au travers du feu. Il y a une image très évocatrice là, quelqu'un qui échappe in extremis de l'incendie. Ça sent le roussi, mais enfin, il s'en est sorti quand même. Hein? Voilà. Il y a des gens qui seront sauvés comme ça, sauvés tout juste. Ils auront fait ce qu'il fallait, mais rien de plus pour recevoir le salut. Mais ils perdront leur récompense parce qu'ils ne se seront pas acquittés de ces œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin qu'ils les réalisent. Ils seront sauvés in extremis. Et vous savez, je dis souvent qu'entre le fait d'être sauvé comme au travers du feu et de ne pas être sauvé du tout, la marge, elle est étroite. Ne pas être sauvé comme au travers du feu, mais être sauvé, certes, et recevoir en plus, par-dessus le marché, si je puis dire, une pleine récompense. Donc, mettons-nous à l'ouvrage, non par contrainte, ni uniquement par sens du devoir, et je me le dis à moi aussi tout ça, mais servons le Seigneur, et servons nos frères et sœurs, et servons même nos semblables qui ne connaissent pas encore Christ. Servons avec amour, servons avec passion. Que Dieu rallume en nous le feu de la passion. Vous savez, des fois, ben, la marche chrétienne est longue. Hein, et quand on est converti depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans ou plus, et qu'on sert le Seigneur, il peut y avoir, ça ne devrait pas, mais c'est un fait, il peut y avoir une certaine lassitude qui s'installe. Voilà. Alors on sert, oui. On accomplit les œuvres, oui. Mais il n'y a plus le dynamisme, il n'y a plus la flamme, il n'y a plus la passion, il n'y a plus l'enthousiasme, il n'y a plus quelque part, je ne sais pas, cette folie de Dieu qui nous entraînait autrefois. Eh bien, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu me fasse grâce, pour que tout cela, nous le retrouvions et nous le maintenions. Servir avec amour, avec passion, avec humilité. Avec un zèle pur, vous voyez, un zèle pur. Comment on peut servir? On peut servir par la prière. Tout à l'heure, on a un temps de jeûne et de prière. Eh bien, il faut servir, et on sert de cette manière. On sert quand on témoigne de notre foi. Hein? On est content quand on a pu partager notre foi, évangéliser quelqu'un, lui annoncer l'amour de Dieu alors qu'il a des problèmes par-dessus la tête. Et puis, accomplissons toutes les tâches qui se présentent à nous, même les plus humbles, même les moins valorisantes, dans toutes les occasions qui nous sont données de servir Dieu et sa cause, de servir les frères et sœurs, de servir l'Église, de servir nos semblables, quels qu'ils soient, en fonction de nos possibilités, en fonction de nos talents naturels, et aussi, et surtout, en fonction des dons que par son Esprit Dieu voudra nous accorder. Soyons de fidèles serviteurs. Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 9, au verset 10, Salomon, puisque c'est lui qui est l'auteur de ce texte, dit ceci: tout ce que tu trouves à faire avec ta force, fais-le. Voilà, c'est écrit. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse, dans le séjour des morts où tu vas. Après, ce sera trop tard. Hein? Voilà. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Vas-y. Sers. Sers le Seigneur. Mets-toi à sa disposition. Sois comme Abraham. Sois comme Isaïe. Sois, même mieux encore, comme Jésus. Mais voici, pour accomplir ton œuvre, Seigneur. Tu m'as sauvé, c'est formidable. J'irai pas en enfer, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Je suis hérité de ton royaume. C'est une grâce, c'est un cadeau que tu m'as fait. Mais Seigneur, afin que je reçoive et perçoive de toi une pleine récompense, je veux te servir ici-bas. Toute œuvre faite avec de bonnes dispositions, de cœur, même celles qui nous apparaissent les plus insignifiantes, seront récompensées. Vous savez que le Seigneur n'oubliera rien. Amen. Il a une mémoire infaillible. Et la Bible dit que si nous offrons même un verre d'eau fraîche, c'est pas grand-chose ça, à l'un de nos frères ou l'une de nos sœurs, nous ne perdrons point notre récompense. Alors que Dieu trouve en nous des gens qui s'offrent au Seigneur. Je sais, on peut se trouver toutes sortes de raisons. Ce ne sont pas de bonnes raisons. Ce ne sont pas de bonnes raisons. Seigneur, je veux me mettre à ta disposition. Je veux me mettre... Vous ne croyez pas que Jésus, quand il a donné sa vie sur la croix, on va commémorer son sacrifice. Il aurait pu se trouver, entre guillemets, de bonnes raisons de ne pas le faire. Hein? Quand il a lavé les pieds des disciples, il aurait pu dire, mais à quoi bon? Ces gens-là sont des misérables. Ce Pierre-là, il va me renier dans quelques heures. Ce Judas, il m'a déjà vendu pour 30 pièces d'argent. Les autres, ils vont tous m'abandonner, me laisser tomber entre les mains de mes bourreaux. Alors, moi aussi, je renonce à les servir. Ils ne sont pas dignes. Mais il l'a fait, par amour. Et sa joie, car son sacrifice, il l'a accompli aussi avec joie, fut de savoir que son sacrifice ne serait pas vain. Qu'en cela, Dieu, le Père, serait glorifié, et qu'en cela aussi, des millions d'hommes et de femmes seraient arrachés des griffes de Satan et deviendraient héritiers du salut. Seigneur, me voici. Amen. Jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à mon dernier souffle, je veux te servir. Vous voyez, cet intérêt pour les choses de Dieu. Je me souviens de cette sœur que nous avions à Toulouse. Elle était fort âgée. Elle ne pouvait plus se déplacer, elle ne pouvait plus venir aux réunions. Elle était fatiguée, elle était au bout du rouleau. Mais quand on allait la voir, elle ne se plaignait pas de ses soucis de santé. Pourtant, elle en avait. Mais sa question était chaque fois, est-ce qu'il y a des âmes qui viennent au Seigneur? Est-ce qu'il y a des conversions dans l'Église? Est-ce qu'il y a des gens qui s'approchent de Jésus pour être sauvés? Vous voyez, cette femme, elle avait cet état d'esprit de servante, certainement que... Eh bien, en son cœur, elle devait intercéder pour qu'il en soit ainsi. Elle ne pouvait plus rien faire, si ce n'est, eh bien, soupirer auprès du Seigneur pour que des âmes soient sauvées. C'est cet état d'esprit qu'il faut conserver jusqu'à notre dernier souffle. Je veux être un serviteur. Il y a un chant qui le disait, « Fais de moi un serviteur, un serviteur. » Et s'il en est ainsi, nous recevrons une pleine récompense. Amen. Voilà, je livre ça à votre réflexion, sur votre cœur. Je pense vraiment que c'était la parole de Dieu pour vous, pour nous, pour moi aussi, ce matin, et devant le repas du Seigneur, devant celui qui a servi de la manière la plus excellente qui soit, puissions-nous dire, Seigneur, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Me voici pour te servir. Et faisant ainsi, je le sais, dans ta bonté et ta grâce, eh bien, un jour, tu m'accorderas d'amples récompenses. Que ton nom soit béni, Seigneur.